Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions. Et aujourd'hui on parle d'un sujet assez douloureux, c'est la psychose puerpérale. Alors la psychose puerpérale, c'est quoi ? C'est bien différent du baby blues, bien différent de la dépression du postpartum, c'est un trouble psychiatrique grave, évidemment bien plus rare que le baby blues, fort heureusement. Car ce trouble qui intervient généralement dans la semaine qui suit l'accouchement se caractérise par un état de délire qui peut mettre en danger la vie de la mère, mais aussi la vie de son enfant. Donc sujet costaud, important d'en parler. Merci infiniment à Jessica qui a accepté de venir raconter ça. Et puis nous serons avec une psychiatre juste après, docteur Karine Ronan. C'est parti.
Alors on va parler d'un trouble psychologique qui touche une à deux femmes sur 1000 dans les jours ou les semaines qui suivent leur accouchement. Et ça s'appelle la psychose puerpérale. Bonjour Jessica.
Bonjour
Merci
Agathe.
De venir raconter votre histoire. Vous avez souffert de ce trouble, c'était environ un mois après la naissance de votre deuxième fille. C'est assez intéressant parce que ce n'est pas venu après votre premier enfant, c'est ça qu'on imaginerait. Évidemment, vous vous attendiez absolument pas à une telle déflagration. Vous avez dû être hospitalisée pendant 6 semaines. Mais l'idée, évidemment, de venir témoigner, c'est de prouver qu'on peut se relever d'un épisode, même quand il est aussi violent. Et vos filles Camille et Manon ont 6 ans et demi et 2 ans aujourd'hui. Vous êtes
deux
extrêmement fusionnelles. Oui, 2 ans et demi, pardon, ça compte. Elle va m'engueuler sinon. Hein. Ouais. Alors, on va dire que pour votre première fille, vous avez vécu accouchement postpartum de rêve.
Alors, la grossesse n'était pas... Enfin, c'était une première grossesse. Donc, en effet, de l'inconnu, de l'inquiétude. Mais on oublie tout le jour de l'accouchement. Accouchement de rêve, ça se passe super bien. La péridurale fonctionne à merveille. Et puis, je suis actrice de mon accouchement. Je prends ma fille. Enfin, c'est... Voilà. Je sors ma fille, je la pose sur moi. Et la rencontre incroyable.
Et le postpartum, le rêve ?
Alors, le rêve, non, forcément,
oui, forcément
de la fatigue.
Enfin, je veux dire, tout se passe
mais,
bien,
mais voilà, un petit baby blues à 3 jours, mais rien de dramatique. Voilà.
Deuxième grossesse, très désirée, très attendue. Le 27 septembre 2019, donc 4 ans plus tard, vous donnez naissance à Manon. En revanche, pour le coup, l'accouchement, expérience très violente pour vous. Hein.
Carrément traumatique. Bon, déjà, Manon se présentait en siège. J'arrive le jour J, j'ai des contractions, le travail se fait très très vite en fait. Et on me dit que je ne peux pas avoir la péridurale parce que j'ai un taux, j'ai des troubles de la coagulation qui font qu'il faut refaire des analyses avant de me donner, avant de me faire une péridurale. Et bah, du coup, en fait, ça ne va pas du tout.
C'est-à-dire que énormément.
Je souffre énormément, le travail s'accélère, je n'ai plus aucun répit en fait, je ne contrôle plus rien, je souffre le martyre et c'est tout en fait. Et je ne comprends pas qu'on ne puisse pas me faire la péridurale alors que j'avais vu l'anesthésiste avant, que j'avais vu, pour ma première c'était passé sans aucun souci. Et non, je ne m'étais pas faite à l'idée en fait d'accoucher sans péridurale, avec la douleur et aussi rapidement. J'ai même pas eu le temps d'accueillir mon enfant, en fait. C'était
vous avez dit
trop
j'étais
rapide.
Actrice de mon accouchement pour le premier.
Voilà.
Là, en l'occurrence, vous étiez spectatrice et c'est peut-être ça qui vous a aussi un peu traumatisée. La rencontre, parce que vous dites la rencontre avec ma première fille était formidable. Avec Manon, comment ça s'est passé ?
Ben, je voulais qu'on me la sorte, en fait. Enfin, elle était dans mon ventre. J'avais tellement mal que je voulais qu'on la sorte. Non, j'étais pas du tout dans le même état d'esprit.
Vous l'avez vue, qu'est-ce qui s'est passé ?
J'étais dans un état second. La rencontre s'est pas faite, puisqu'en plus on me l'a retirée pour lui retirer du liquide. Donc elle est partie dans une autre pièce et la rencontre, non, c'est pas faite. Donc et moi j'étais en train de me remettre de cet accouchement traumatique où je hurlais. Et tout l'hôpital m'entendait, je pense. Et vraiment très rapide. Je ne m'attendais pas à ça, donc la rencontre n'a pas pu se faire comme il fallait.
Alors après, vous êtes entêtée, comme beaucoup, beaucoup de mamans, dans un allaitement qui s'est mal passé. La fatigue est montée. Et on va dire que quand Manon a eu 3 semaines, là, ça a commencé à dégénérer. Vous n'alliez plus bien du tout.
Ah non, ça n'allait plus du tout. Bon, 3 semaines de fatigue intense, je ne dormais plus. En effet, l'allaitement, c'était chaotique. Je voulais bien faire, hein. Effectivement. Je me disais, il faut allaiter, c'est bien. Et puis la fatigue est là. Le pédiatre qui me voyait me dit, mais Madame Balourdet, là, ça va pas du tout, en fait. Vous n'êtes pas bien du tout. Il faut aller voir quelqu'un. J'avais plus aucun bon sens. Je me posais des milliards de questions surtout. J'étais très anxieuse.
Vous aviez l'impression que vous n'étiez pas apte à vous occuper de votre bébé ou vous faisiez plus confiance ?
Je me faisais plus confiance. Mmh. Je me faisais plus confiance et j'avais absolument plus aucun bon sens.
Qu'est-ce qui s'est passé, Jessica, le 23 octobre ? Il y a eu un élément déclencheur.
Le 23 octobre, ma fille s'était fait retirer le frein de langue 2 jours avant, puisque problème d'allaitement. Et puis mon conjoint, qui est mon pilier fort et qui est solide comme un roc, me parle de. Enfin, je le sens inquiet, je le sens stressé, je le sens paniqué par rapport à des difficultés financières possibles. Et là, mon monde s'écroule en fait. Je me lève, je lui dis que ça ne va pas et je n'arrive même plus à être debout face à lui. J'ai l'impression de faire un AVC, de perdre complètement la maîtrise de mes mots. Toutes mes idées se chevauchent, se percutent et je suis ailleurs, je suis en dehors de moi.
Il a appelé les pompiers ?
Il a appelé les pompiers, alors il a gardé son sang-froid parce que les pompiers lui disaient c'est une crise d'angoisse, donnez-lui un anxiolytique et puis tout ira très bien. Et moi je disais mais non, là vous passez à côté de quelque chose de grave.
Vous êtes persuadée que vous faisiez vraiment un
AVC ?
Ah
bien sûr, ou... et que c'était une urgence. D'ailleurs, avant qu'il appelle les pompiers, je le sommais d'appeler les pompiers.
Alors les secours viennent vous chercher, aux urgences on vous parle de burn-out maternel, vous renvoie chez vous, c'est un diagnostic que confirme la psychiatre que vous voyez 2 jours plus tard, et puis le lendemain, en fait ça empire, quoi. Vous avez l'impression que vous n'êtes pas prise au sérieux, vous avez même fini par être violente avec vous-même, votre conjoint est totalement démuni, il appelle le 15, et cette fois, comment est-ce que les urgences vous prennent en charge ? Qu'est-ce qu'on vous dit ?
Bah, cette fois, en fait, je pense que je suis tombée sur un médecin qui a pu poser le diagnostic de la psychose puerpérale et qui a vraiment reconnu tous les symptômes, c'est-à-dire dépersonnalisation, confusion, très grosse fatigue, j'avais des hallucinations. Et du coup, oui, c'est ça, je pense qu'elle a posé le bon diagnostic. Et puis... En fait, moi, je me disais, mais ils sont complètement passés à côté de ce qui m'arrive. Là, ça fait 2 jours, enfin, ça faisait 3 jours que ça n'allait plus du tout. Mmh. Et que je ne comprenais pas qu'on ait pu me faire, rentrer chez moi, tout simplement. En fait, je me disais, non, là, il se passe un truc gravissime. Et voilà. Donc,
Alors, vous êtes restée hospitalisée 6 semaines oui. dans différentes unités de psychiatrie. Est-ce que vous aviez parfois des perceptions altérées de la réalité encore à ce moment-là ?
Ah, tout à fait. Je manquais totalement de repères spatio-temporels. J'avais l'impression parfois que le temps s'arrêtait. J'étais dans l'hôpital psychiatrique où il y avait tout un tas de gens malades, de différentes pathologies. En fait, j'étais dans quelque chose de très généraliste et je ne comprenais pas du tout ce que je faisais là. Je savais que je n'étais plus à ma place chez moi, mais je ne comprenais pas ce que je faisais dans un hôpital psychiatrique.
Alors en décembre, vous avez voulu rentrer chez vous. L'équipe a accepté, même si vous étiez encore fragile. Est-ce que vous aviez quand même des moments seuls avec Manon ? Comment ça s'est passé ?
Alors quand je suis rentrée à la maison, évidemment, j'étais extrêmement paniquée. Oui, j'ai eu des moments seuls avec Manon, mais pour moi, c'était terrifiant. Mon conjoint devait amener la grande à l'école. Et moi, j'étais complètement paniquée. J'avais peur, en fait, de perdre mes moyens, de ne pas savoir faire.
De perdre le contrôle.
De perdre le contrôle, que ça me réarrive, d'être confuse. Oui, et puis j'étais paniquée par rapport à le fait de donner un biberon. Je ne savais plus rien faire. Tout me semblait insurmontable.
Alors, vous avez continué votre traitement, une psychothérapie, vous avez eu une place en ambulatoire aussi au sein d'une unité mère-enfant. Petit à petit, vous avez repris confiance, Jessica, en vos capacités. Et le lien avec Manon a commencé à se tisser petit à petit.
Oui, ça a pris beaucoup de temps, mais en effet, le lien s'est tissé peu à peu. Au début, j'étais très maladroite, je ne savais pas comment faire pour la porter. Elle me fuyait du regard et petit à petit, effectivement, en allant à l'hôpital de jour, en apprenant à passer du temps avec elle, à me rassurer aussi beaucoup sur les angoisses que je pouvais avoir sur son alimentation, sur son sommeil. Et puis sur sa façon d'être, tout simplement. Et puis moi, sur mes capacités à être maman et à savoir faire. Ça a mis du temps. Mais au fil du temps, on a réussi à construire quelque chose et à se relever.
Et en septembre 2020, c'est-à-dire un an après la naissance de Manon, vous avez repris le travail, mi-temps thérapeutique, hein, c'est ça. Tout aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ?
Ah ben aujourd'hui, je me sens en pleine forme. J'ai dû accepter que le temps de guérison était incompressible. On m'a bien dit que ça durait longtemps. C'est pas en trois mois, ça, on va pas mieux, non. Il faut l'accepter. Quand on est dans le tunnel, on a du mal à voir le bout. Et il y a un bout, il y a une lumière derrière. Et aujourd'hui, ça va très bien. Mes filles sont en pleine forme. Je suis extrêmement fusionnelle avec ma plus jeune, toujours fusionnelle avec la grande, mais aussi fusionnelle avec ma plus jeune. Et voilà, aujourd'hui, ça va bien.
Et bonjour, docteur Karine Ronen. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédopsychiatre, responsable de l'unité de jour bébé-parent du Centre de psychopathologie périnatale du boulevard Brune à Paris. C'est un centre qui est rattaché à l'hôpital Sainte-Anne. Jessica, on l'a vu, elle a traversé un accouchement qui a été, en tout cas, qu'elle a perçu comme violent et comme étant un traumatisme. Est-ce qu'il y a toujours un élément déclencheur comme ça avant la psychose puerpérale? Moi, ce qui m'a le plus frappée, c'est que ce soit après un premier enfant, qu'elle ait confiance en son rôle de maman et dans ses capacités à être mère. Et puis, tout à coup, un accouchement se passe mal et on peut développer ça.
Alors, vous avez raison. Le fait de devenir maman pour la première fois... est déjà un facteur de risque supplémentaire. En général, il y a 70%
qui arrivent à la première grossesse.
Qui arrivent à la première grossesse. Après, on n'a pas toujours un élément déclencheur. Ce qu'on sait, de manière certaine et montrée, c'est qu'un accouchement même non traumatique est déjà un bouleversement énorme la vie d'une femme, même si on met des bébés au monde depuis la nuit des temps, et que ça peut sembler tout à fait banal. Un accouchement, c'est un bouleversement hormonal, physique, émotionnel. Et déjà en ça, c'est un moment dans la vie d'une femme, la grossesse, l'accouchement, puis le postpartum, de grande vulnérabilité psychique. On sait que c'est la période de la vie d'une femme où on a le plus de risques d'avoir une décompensation psychiatrique. Mmh. Donc ça, c'est aujourd'hui bien montré. Et je crois qu'aujourd'hui, le témoignage précieux de Jessica et l'émission d'aujourd'hui qui traite de ces décompensations psychiatriques du postpartum est extrêmement précieux pour lever un voile sur quelque chose qui est encore malheureusement tabou et peut-être doublement tabou du fait que les troubles psychiatriques, ça reste encore
très compliqué,
difficile à évoquer. Et de surcroît, dans cette période qui est supposée être enrobée de bonheur, la maman, le bébé, tout est rose. Et les femmes ont encore énormément de mal, quand ce n'est pas le cas, et ça arrive, à pouvoir en parler. Et je crois que lever ce tabou-là, c'est quelque chose de très important.
C'est crucial, en effet.
Pour les femmes. Heureusement que la parole se libère sur le postpartum, sur toute cette période un peu compliquée après l'accouchement. C'est toujours difficile de poser le diagnostic, j'ai l'impression, de cette psychose puerpérale. On a reçu justement une question en vidéo de Lise pour vous regarder.
Bonjour la maison des maternelles. J'aimerais savoir comment l'entourage peut détecter les signes d'une psychose puerpérale sans les confondre avec ceux d'une fatigue intense ou d'une dépression postpartum. Merci.
Alors, on l'a vu quand... Jessica a franchement perdu le contact avec la réalité. À ce moment-là, le diagnostic, il était assez évident et il a été fait. C'est-à-dire qu'elle était déjà dans des moments où elle perdait pied avec elle-même, avec une sensation d'irréalité, d'étrangeté du monde et des idées qu'on appelle délirantes, c'est-à-dire qui ne correspondent pas à la réalité. Là, en général, le diagnostic est facile à faire.
C'est ça qui doit alerter l'entourage, donc.
Oui, c'est-à-dire que c'est pour le coup assez bruyant et ça passe pas inaperçu.
C'est-à-dire incomparable avec une dépression, même une dépression costaud, ça n'a rien à voir.
C'est-à-dire qu'on voit la personne qu'on connaît, avec qui on vit depuis parfois des années, qui se met à avoir des comportements incohérents, à tenir des propos bizarres, voire...
C'est pour ça que ça s'appelle psychose, parce que c'est un mot très fort, non ? Psychose.
Mais psychose, c'est ça que ça veut dire. C'est qu'on perd pied avec la réalité, ce qui n'est pas le cas dans une dépression postnatale, où c'est plus caractérisé par une tristesse, une autodévalorisation, qu'on peut retrouver dans la psychose puérpérale, mais pas avec cette dimension.
Elle a très bien décrit, d'ailleurs, l'impression que son cerveau lui échappait.
Et ça, c'est extrêmement angoissant. Il faut se représenter ce que c'est que de passer par une sorte de cauchemar éveillé.
Atroce. Où on peut avoir pied, quoi.
Des idées parfois terribles, qu'on est menacé, que le bébé est menacé, qu'on veut nous tuer, qu'on va s'en prendre à l'enfant, que l'enfant n'est pas de nous, que c'est peut-être l'enfant du diable, complot, enfin des choses terribles. Il n'y a qu'à penser à Rosemary dans Rosemary's Baby. Si on pense que son bébé est le bébé de Satan et que tout le monde est dans le coup, voire son conjoint, on peut comprendre qu'on ait des manifestations d'angoisse et de fuite ou de mise en danger. Important.
Héloïse nous dit « J'ai été hospitalisée et séparée de mon bébé plusieurs semaines à cause d'une psychose puerpérale. Quelles peuvent être les conséquences de ce lien abîmé sur ma fille ?»
Alors déjà, je me dis lien abîmé. J'ai pas envie d'en parler comme ça parce qu'il faut se préoccuper des effets de la séparation de la maman et du bébé. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que ce lien, il est récupérable. Qu'un bébé, c'est extrêmement résilient. Et que pour les femmes qu'on reçoit, qui sont passées par cet événement très traumatique de la psychose, elles sont parfois très culpabilisées et elles ont le sentiment d'avoir gâché la vie de leur bébé, d'avoir été incompétente, pas à la hauteur, et qu'il y a quelque chose d'irrémédiable.
Est-ce que ça arrive à beaucoup de jeunes mamans ?
Alors, on estime que c'est environ... 1 à 2 naissances sur 1000. Donc, à la fois...
C'est quand même beaucoup.
C'est rare. 700 000
et en même temps, 700 000, 800 000, rapporté au nombre de naissances, effectivement, ça concerne un certain nombre de femmes.
Ce qui est vachement important de dire, on ne l'a peut-être pas dit assez clairement en première partie, c'est que c'est réversible, qu'il en soit.
C'est un point majeur, c'est qu'on en guérit.
Oui, c'est ça.
Qu'il y a des traitements adaptés et qu'un jour... on reprend sa vie
normale
avec un bébé tout neuf. Mais...
Et avec une fragilité qu'on garde à vie ou non, c'est fini ?
Alors, pas forcément. On guérit de l'épisode, c'est-à-dire qu'on retrouve complètement ses moyens, le délire s'en va, les angoisses s'apaisent. Il y a quand même une période de convalescence qu'il faut avoir en tête et pas être trop pressé, même si on a toujours envie d'aller bien et d'être opérationnel pour son bébé et son entourage. Pas être trop pressé, se laisser le temps aussi, se dire que ça a quand même été un tremblement de terre. Et qu'on a besoin quand même de plusieurs mois pour arriver à retrouver ses bases et pouvoir mener une vie normale. Mais bien avant ces mois-là, on peut déjà être mieux et guéri.
Grégoire vous demande « Ma femme a fait une psychose puerpérale et a voulu s'enfuir par la fenêtre avec notre bébé. Elle va mieux aujourd'hui, mais j'ai du mal à laisser seule avec notre enfant. Que faire ?»
Alors, déjà, je voudrais dire qu'il faut comprendre ce papa. Quand on a vécu quelque chose comme ça, qu'on a vu son conjoint, la personne dont on est très proche, avec qui on vit depuis des années, qui va aussi mal et qui a des gestes aussi dangereux que de passer par la fenêtre avec son bébé, la confiance est ébranlée, on est traumatisé. Et c'est pourquoi nous, on accorde une attention très importante au papa, à l'entourage. De manière générale, les troubles psychiatriques, c'est une souffrance pour l'individu, mais c'est aussi une souffrance pour l'entourage et c'est important de les inclure dans les soins pour qu'il puisse soutenir sa conjointe et pour qu'il puisse lui-même être soutenu dans sa paternité et en tant que conjointe de cette dame. Donc, c'est normal que sa confiance soit ébranlée. Ça va revenir, ça va mettre du temps. Ce qu'il faut dire à ce papa, c'est que sa femme va guérir, que ce n'était pas elle à ce moment-là, mais c'était elle sous l'influence du délire. Et qu'une fois qu'elle est guérie, elle va redevenir celle qu'il a toujours connue. Et il va pouvoir être rassuré au fur et à mesure. Mais c'est des choses qui prennent du temps et qu'il faut accompagner.
Pendant les crises de délire, on appelle les urgences psychiatriques, les urgences tout court. Qu'est-ce qu'on fait ?
Alors, soit on appelle les urgences psychiatriques si on est à proximité, soit on appelle les urgences générales. Et en général, il y a un psychiatre de garde qui pourra passer donner son
avis. Les urgences psychiatriques, je ne mesure pas, il y en a partout en France. Il faut être quand même dans des grandes villes.
Alors, à Paris notamment, on a le CPOA qui est très et les urgences générales sont assez bien équipées en psychiatres.
Avec des psychiatres de garde
qui peuvent passer.
Il y a Julien qui vous demande si cet épisode de psychose peut aussi arriver aux jeunes pères.
Alors, on sait que ça existe, les décompensations psychiatriques chez un papa en postpartum. C'est moins documenté, on s'y intéresse encore pas assez. Déjà, la psychose puerpérale chez la maman, c'est...
On commence.
Le papa, on commence à s'y intéresser aussi. Après, il n'y a pas toute la dimension de la grossesse, de l'accouchement, des hormones qui jouent aussi un rôle. Donc, ce n'est pas tout à fait superposable, mais il existe des décompensations chez les papas.
D'accord, mais ce n'est pas la même chose. Hormonalement et psychiquement, il ne se joue pas les mêmes choses.
Disons qu'il y a des facteurs physiques, hormonaux, et des facteurs psychologiques. Ce n'est pas l'un ou l'autre.
Justement, est-ce qu'il y a un profil, est-ce qu'on peut faire émerger un profil type de femmes qui sont à risque de développer ce...
Disons qu'on a identifié des facteurs de risque qui sont démontrés par des études, qui sont le fait d'être maman pour la première fois, c'est le premier bébé, qui sont le fait d'avoir déjà fait une psychose puerpérale. Les mamans qui en ont déjà fait une sont plus à risque d'en refaire, d'où l'importance de la prévention, qui sont des antécédents de troubles de l'humeur, de dépression avant, pour d'autres raisons, et puis aussi des antécédents familiaux. De troubles psychiatriques, de troubles de l'humeur.
Oui, donc ça pourrait être un peu...
Donc c'est plus un terrain
oui, c'est ça. Il peut y qu'on avoir identifie. Un terrain quand même génétique.
On identifie.
Mais ce n'est pas forcément c'est des facteurs le cas, j'imagine.
Non, pas systématiquement.
On ne trouve pas ça systématiquement. Non.
Juliette vous dit, l'hospitalisation implique-t-elle toujours une séparation avec le bébé? Si oui, comment reconstruire le lien ensuite?
Alors, en général, comme c'est un tableau qui est assez bruyant, avec beaucoup d'angoisse, avec parfois une agitation intense, pour protéger la maman et pour protéger l'entourage et le bébé, bien souvent, il y a une hospitalisation en psychiatrie pour la maman avec séparation d'avec le bébé, parce qu'elle n'est pas en état de s'occuper de son bébé, que ce n'est pas souhaitable de les laisser tous les deux et qu'elle a besoin de soins un temps pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, renouer avec son bébé au gré de visites qui sont encadrées par l'équipe, accompagnées de la famille du papa, de permissions à domicile régulièrement. Et puis, quand on a la chance d'avoir une unité d'hospitalisation qu'on appelle mère-enfant à côté de chez soi ou pas trop loin, on peut aussi être pris en charge dans ce type de structure qui hospitalise à la fois la mère et à la fois l'enfant. Mmh. Qui traite la mère sur le plan psychiatrique et qui aide au lien dans le même temps. Et ça peut être des unités temps plein et ça peut être des unités de jour, comme celle dont je m'occupe à l'hôpital Sainte-Anne.
Boulevard Brune.
C'est une hospitalisation qui dure en moyenne combien de temps?
Alors, l'hospitalisation en elle-même, sur un plan psychiatrique, il faut compter quelques semaines. Après, dans ce qui est de la reconstruction du lien, de la reprise de confiance, de pouvoir se remettre du traumatisme que ça a été d'avoir cet épisode-là, ça peut durer plusieurs mois. En général, c'est assez long. Mais pendant ce temps-là, la maman va de mieux en mieux et l'entourage va de mieux en mieux. Mais il faut se donner le temps et les moyens de recréer le lien, de se reconnecter.
Vous parlez d'un risque de récidive, visiblement. Alors, j'imagine que ça doit être une angoisse pour les femmes qui ont pu en vivre pour la première, quand elles sont enceintes la deuxième fois. Vous parlez de prévention, c'est important de faire de la prévention.
On peut anticiper, aujourd'hui on y est assez attentif. On sait que quand on a fait une psychose puerpérale, il y a un risque de 20 à 30% d'en refaire une. Donc le risque n'est pas du tout négligeable. Ouais. Mais ce n'est pas une fatalité parce qu'on sait qu'on peut mettre des choses en place.
On peut l'anticiper quand on sait que c'est qu'on a un risque aussi, j'imagine, non? Est-ce qu'il
oui, n'y
a pas un traitement par défaut? Enfin, peut-être une psychothérapie?
Alors oui, en général, si les mamans ont bien été prises en charge, elles ont bénéficié d'une psychothérapie, peut-être encore... qui se poursuit. De la même manière, le traitement médicamenteux, qui en général est prescrit pour plusieurs mois, voire plus longtemps, est parfois encore en cours.
Et c'est des antidépresseurs?
Ce sont des antipsychotiques. Les psychoses puerpérales, des antipsychotiques.
Okay. Ça a du sens.
on doit les garder suffisamment longtemps justement pour prévenir les risques de rechute, même si on va bien, c'est un peu comme les antibiotiques, on va mieux, mais il faut les garder quand même parce qu'on a besoin de consolider. Et donc la prévention, c'est quelque chose de majeur. Nous, à l'hôpital Sainte-Anne, on a une consultation dédiée aux mamans qui ont présenté ce type d'épisode ou qui ont un trouble psychiatrique connu, dès l'antéconceptionnel, où on réfléchit avec la maman à ce qu'on va pouvoir mettre en place si elle est enceinte. S'il y a un psychiatre positionné, il faut intensifier le suivi. S'il n'y en a pas, c'est bien d'en mettre un dans la boucle. Et puis, la collaboration entre les équipes obstétricales et le psychiatre est très importante. La grosse tentation peut avoir ces femmes, c'est de vouloir tout mettre sous le tapis et de se dire « c'était terrible, je ne veux plus y repenser ». Et là, c'est l'erreur. Au contraire, il faut y aller, il faut se donner les moyens de faire en sorte que ça ne recommence pas. Et du coup, ça nécessite une collaboration assez serrée entre les obstétriciens, les psychiatres, et puis mettre en place aussi tout un réseau PMI, de soutien aussi en post-natal, identifier les ressources familiales et puis, puis professionnelles.
Alexis vous demande si vous avez des conseils pour faciliter le retour à la maison de sa conjointe après son hospitalisation. Il vous dit concrètement, que puis-je faire pour que ça se passe au mieux pour elle ?
Alors déjà, sa présence est très importante, son soutien est très important. Quand il y a un papa qui est là et qui comprend et qui soutient, c'est majeur. Ensuite, comme je disais, ça peut prendre pas mal de temps et supporter et ne pas trop s'inquiéter que ce soit un peu long, que la maman puisse reprendre ses marques, qu'elle puisse rencontrer ce bébé dont elle a été séparée, qu'elle puisse reprendre confiance en ses compétences maternelles, qu'elle puisse parfois, du coup, renouer avec des aînés aussi et reprendre une vie et en charge toute la maisonnée. Donc, je crois qu'il faut l'accompagner, accepter qu'il y ait un temps comme ça de convalescence, s'entourer au maximum si on a un réseau familial qui est là, des grands-parents qui peuvent prendre un peu le relais, la soulager pour les nuits si le bébé ne dort pas encore. Ça, c'est assez important, pouvoir préserver le sommeil. Et puis s'appuyer sur les équipes compétentes qui, on l'espère, les accompagnent.
Pauline nous écrit, après un mois de prise en charge en hôpital psy pour une psychose puerpérale, je suis rentrée récemment à la maison. Elle vous demande comment l'expliquer à sa plus grande qui a 6 ans.
Alors ça, c'est une question très importante parce qu'on commence à penser au papa. On pense un peu moins à la fratrie qui a parfois été témoin de choses très difficiles et peu compréhensibles pour un enfant. De troubles du comportement. On parlait de cette maman qui passait par la fenêtre, d'une autre maman qui peut tenir des propos incohérents, voire se montrer violente. C'est important d'essayer de mettre des mots justes sur ce qui s'est passé, de ne pas faire comme si tout était rentré dans l'ordre et on n'en parle plus, de pouvoir expliquer qu'à ce moment-là, la maman n'était pas dans son état normal, qu'elle était malade, qu'on s'est occupé d'elle, qu'on fait en sorte qu'elle aille bien.
On dit la vérité, quoi.
Toujours.
Ouais.
Mais avec des mots adaptés à ce que peut comprendre l'enfant. Et une chose qui est importante aussi, parce que les enfants ont tendance à beaucoup rapporter les choses à eux, à se les attribuer, c'est de lui dire qu'elle n'est pas responsable à aucun moment de ce qui s'est passé, que c'est quelque chose que tout le monde a subi, que la maman n'a pas souhaité partir comme ça plusieurs semaines hors de la maison, qu'elle n'a pas souhaité se séparer de ses enfants. Ça a été une obligation à un moment donné et qu'elle est accompagnée. Et ça, l'enfant, en général, est assez soulagé de savoir que le parent a un problème, mais il y a des gens compétents sont là pour le prendre en charge. Et eux, du coup, ils se sentent déchargés de ça parce que ce n'est pas leur rôle.
Merci docteur Karine Ronan et merci à Jessica d'avoir accepté de raconter cette histoire douloureuse. Je le disais, mais c'est l'objectif de cette émission, de pouvoir échanger sur tous les sujets. Voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast des maternelles. Allez, ciao tout le monde.